Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention, qu'est-ce qu'il y a? Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama. Cinérama.
Oui, j'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama aujourd'hui, alors sans blind test, mais avec une interview, celle de Marc Fitoussi et Olivia Cotte pour le film Les Cyclades. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Alors de ton côté Guillaume, deux films.
Oui, c'est L'Immensité d'Emmanuel Écrialézé et Terrifier 2 de Damien Léon.
Quant à toi Manu.
C'est un petit film espagnol d'une heure 4, Venez voir, de Jonas Trueba.
Mais nous allons commencer avec Marine, qui a vu Les Survivants. Un homme qui a perdu sa femme décide d'aider une migrante afghane qui veut rejoindre la France. C'est le premier film de Guillaume Renusson.
Ben oui, c'est le film est bien.
This is Cinérama.
Oui, c'est bien mon avis.
Tu vas faire quoi?
Je continue. Et toi?
Le saviez-vous, à la frontière transalpine, côté Italie, des patrouilles de bénévoles, alors xénophobes hein, certes, mais bénévoles, passent leur temps à traquer des familles de migrants qui tentent de traverser la montagne pour rejoindre la France au péril de leur vie. Ces joyeux nationalistes, dont l'existence doit être sans aucun doute remplie de beaucoup d'amour, mettent donc tout en œuvre, drones, chiens de combat et longues maraudes dans la neige, pour déloger les migrants, déjà souvent bien mal en point, hein, et les refourguer à la police italienne. En se défoulant, on l'imagine un peu sur eux au passage, mais on le rappelle encore une fois, ils ne sont pas payés pour faire ce travail. Samuel, le personnage principal des survivants, campé par Denis Ménochet, va se retrouver pourchassé par l'une de ces milices racistes lorsqu'il décide un jour d'aider une femme afghane, Shireh, à passer la frontière. Lui, l'homme de la montagne, qui n'arrive pas à se remettre du décès de son épouse, pas forcément sensibilisé à la cause des immigrés clandestins, va pourtant tenter de sauver la vie d'une inconnue, quitte peut-être à perdre la sienne dans les dangereuses hauteurs enneigées.
Il y a un problème? Je retourne au chalet.
C'est pas une bonne idée qu'il y ait tout ça, non?
J'en ai besoin.
Monsieur Dame, contrôle d'identité.
Et vous allez où comme ça?
En Italie.
En même temps, on est chez nous ici.
Mon père m'a dit de dire que je dispiace pour ta moglie.
Andrà bene, grazie.
Le but de Shireh est d'arriver jusqu'à Briançon, en France. Briançon, c'est la plus haute ville d'Europe. Et si les migrants veulent en l'atteindre, c'est qu'elle est équipée d'infrastructures solidaires qui peuvent les accueillir après qu'ils aient souvent traversé l'enfer. Les exilés arrivent régulièrement en pleine hypothermie, blessés, épuisés, après avoir pris de grands risques pour traverser la frontière en passant par les montagnes. Ces exilés, le jeune réalisateur Guillaume Renusson les a vus de ses propres yeux en se rendant lui-même maintes fois dans cette zone à risque. Alors il se trouve que la frontière avait à cet endroit quasiment disparu, hein, puisque nous sommes dans l'espace Schengen, mais les événements terroristes survenus en Europe ces dernières années ont servi de prétexte à rétablir la frontière et à la militariser, ce qui rend le parcours des exilés clandestins encore plus dangereux, puisqu'ils se retrouvent à devoir affronter la montagne sans du tout y être préparés physiquement.
France ?
Ça c'est l'Italie, la France c'est pas par là.
Tu m'en montres ?
Non, je veux pas d'histoire. Et tu vas où?
Briançon.
Vous allez tous à Briançon.
Tout film qui tend à humaniser les migrants et leur parcours hein, est un film qui a son importance, qui participe un peu à conscientiser les spectateurs quant au sort de ceux qui parfois risquent tout pour arriver ici. Encore faudrait-il après que ce genre de film soit évidemment vu par les bonnes personnes, mais bon, cela est un autre sujet. Hein. Premier film de Guillaume Renusson, Les Survivants, même s'il est pétri de bonnes intentions et qu'il cherche à brasser plusieurs genres, drame familial, western dans les grands espaces ou encore thriller social, demeure un peu en surface. Ce film de survie qui recèle, il est vrai, un profond message humaniste, hein, s'avère réussi, mais nous laisse un petit goût de trop peu. On reste étonné devant le manque d'intensité de ce film pourtant ramassé, hein, 1h34, et malgré de nombreuses scènes fortes, émouvantes, on est un peu dubitatif aussi devant un Denis Ménochet bizarrement absent de lui-même, mais qui parle ici italien. Une nouvelle performance donc pour l'acteur que l'on a déjà entendu parler anglais dans Inglourious Basterds, espagnol dans Asbestas ou encore allemand dans Peter Van Kant. À ses côtés, on retrouve Zahar Ami Ebrahimi, prix d'interprétation quelque peu surcoté au dernier festival de Cannes pour le film Les Nuits de Machad, un excellent film iranien mais dans lequel on la voyait finalement assez peu. Les Survivants est une bonne occasion de découvrir donc davantage cette comédienne qui a elle-même dû quitter son pays, l'Iran, et vivre en France, un exil forcé depuis il y a 15 ans.
Faut pas rester là, je te dis, viens.
Pourquoi tu fais ça avec moi?
Parce que t'as besoin d'aide.
Les Survivants, c'est aussi un film brut, sans fioritures, qui ne s'embarrasse pas de complexifier ses personnages, qui se contente d'un décor, un décor immense, la montagne, et de quelques non-dits, dont on devine qu'il cache en creux une souffrance passée mais récente chez les personnages. On imagine aisément la complexité à laquelle le tournage en haute montagne s'est heurté. D'ailleurs, on apprécie grandement que la nuit ici ne soit pas une nuit américaine. Et encore une fois, on imagine la difficulté de tourner en altitude dans la neige en pleine nuit. Les Survivants est un film parfois un peu trop simple, mais qui sait mettre cette simplicité au service de son message politique, qui n'est jamais simpliste en revanche, et qui en tout cas démontre de façon évidente une grande ambition de cinéma de la part du jeune cinéaste Guillaume Renusson.
Les Survivants de Guillaume Renusson est en salle depuis le 11 janvier. Encore un film italien pour toi, Guillaume. La semaine dernière, nous étions à Naples. Maintenant, nous sommes à Rome pour L'Immensità de Emanuele Crialese avec Penelope Cruz.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
This is Cinerama.
C'est vrai, oui ou non?
Révélé avec le succès de Respiro en 2002, puis la consécration de Golden Door en 2006 qui a obtenu le Lion d'Argent à la 63e Mostra de Venise, Emanuele Crialese continue d'exploiter le filon des individus confrontés à leurs proches, leur histoire et leurs conditions sociales, alors qu'eux-mêmes rêvent d'un ailleurs et voudraient se révéler dans un carcan parfois moins contraignant. Ce qui était une recherche d'apaisement et d'amélioration du quotidien devient une quête existentielle qui révèle les limites des uns, les espoirs parfois utopiques des autres et l'égoïsme de tous. Le réalisateur revient souvent au thème de la famille décomposée puis recomposée, mais toujours au final dysfonctionnelle car elle n'apporte aucune source de sécurité à ses membres les plus faibles, c'est-à-dire les enfants. Crialese l'a dit, et L'Immensità embrasse tout entier ce postulat. Chez lui, la famille qu'il analyse est souvent délaissée de tout amour conjugal, et les adultes sont aussi puérils que les enfants. Sauf qu'un adulte puéril, c'est parfois bien plus compliqué et dangereux à gérer qu'un enfant, surtout lorsque ces adultes ont justement des enfants à charge. Et dans L'Immensità, certains de ces enfants se posent également des questions très importantes, en plus de voir leur cellule familiale imploser. L'aînée de la fratrie s'interroge sur son genre, et alors qu'elle s'ouvre progressivement à l'amour et qu'elle se demande si elle est plus attirée par les garçons ou par les filles, elle doit composer avec une mère fantasque et immature. À quelques détails près, on pourrait presque parler de l'un des piliers de The Fabelman, le dernier film de Steven Spielberg, lui aussi mettant en scène une mère atteinte du syndrome de Peter Pan et dont la dépression va avoir un impact terrible sur les siens.
Adri pense qu'elle est la fille d'une créature de l'espace.
Mais ça ne t'inquiète pas, toi?
Moi, l'imagination des enfants, ça ne m'a jamais inquiétée. Ce qui m'inquiète, par contre, c'est l'imagination des adultes qui se prennent encore pour des petits-enfants. T'es retournée derrière les roseaux? C'est dangereux, tu sais. Surtout pour toi. Et pour ta copine aussi.
Et quelle mère! L'Immensità met en scène rien de moins que Penelope Cruz, autour de laquelle gravite tout le film. Et il le lui rend bien, car il faut bien avouer que sans elle, il s'écroulerait quasiment totalement. Penelope Cruz est LA star du film, celle qui vole chaque photogramme dans lequel elle apparaît du début à la fin du métrage. Elle est la principale raison de voir le film, qui lui doit beaucoup, on l'a dit, pour son interprétation sublime et fantasque d'une femme enfant à la dérive, mais aussi pour tout le bagage qu'elle apporte avec elle. Car il est impossible de ne pas penser à sa collaboration passée avec Pedro Almodovar et dont Emanuele Crialese aimerait bien reproduire l'alchimie à travers son portrait de femme fragile. Il n'est malheureusement pas aidé par une intrigue qui est beaucoup plus flottante que chez Almodovar justement. Lors de la conférence qu'il a tenue lors de sa venue au Festival Cinéma en 2022, Crialese a assumé cette construction vaporeuse qui symbolise le flux de la vie qui continue quoi qu'il se passe, qui n'a pas de début et pas de fin. On est ici, on le voit, assez proche de l'une des phrases témoignant de la philosophie mise en avant dans Avatar La Voix de l'eau et qui parlait lui aussi d'une famille qui ne fonctionne pas toujours très bien. Et oui, les films d'auteur revêtent souvent des oripeaux différents, fussent-ils situés dans l'Italie des années 70 ou dans une galaxie lointaine, très lointaine. L'Immensità est donc un rendez-vous un tout petit peu manqué. Alors, c'est loin d'être inintéressant, mais il aurait fallu un peu plus de rigueur là où justement les personnages pêchent par leur manque de constance hein, pour faire face à leurs pulsions qui vont entraîner des actes parfois terribles. Cela aurait aussi permis à certaines métaphores que l'on aurait aimé plus nombreuses, hein, à l'image du personnage de Penelope Cruz en train de pleurer hein, devant la projection de ce que l'on devine être le docteur Jivago en salle, bah, d'être vraiment comprise, assumée et exploitée par le réalisateur. Encore une fois, le vrai bon complément de ce portrait de mère à la dérive est le dernier Spielberg, The Fabelman, lui, infiniment plus poétique sur la question.
Merci Guillaume, et ce sera ton défi en 2023. Tu devras à chaque fois relier les films que tu chroniques avec Avatar.
Bon, là, c'était vraiment facile, hein, parce que c'est vraiment la même phrase prise telle quelle par le réalisateur.
Hein. Ouais. L'Immensità est en salle depuis le 11 janvier. Deux amis que tout oppose se revoient après de longues années, partent en voyage en Grèce, mais rien ne se passe comme prévu. C'est une comédie, c'est Cyclades de Marc Fitoussi avec Olivia Cotte que nous allons entendre.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi, c'est une blague ou quoi ?
Le buddy movie à la française, l'un des plus grands exemples, eh bien, on le trouve avec des couples formés par De Funès ou Bourville, ou encore Depardieu et Pierre Richard, hein, La Chèvre, Les Compères et Les Fugitifs. Alors c'est un peu plus difficile de trouver un film qui réunit deux femmes au caractère bien différent, et c'est peut-être pour ça que Marc Fitoussi, qui avait franchement réussi son selfie en 2018, a décidé d'en faire un buddy movie au féminin qui nous emmène en vacances en Grèce avec le bien nommé Les Cyclades. Alors, qui a-t-il choisi pour incarner ce duo de choc dont les différences doivent dynamiser le récit ? L'exubérante Laure Calamy d'un côté et de l'autre Olivia Cotte. Pour faire oublier un peu Laure Calamy, le réalisateur a décidé de lui mettre une crinière blonde. Mais à part ça, eh bien, c'est la même. Hein. Il a suffi au réalisateur d'appuyer sur un bouton pour que ça joue. Alors, que racontent Les Cyclades ? Il raconte des retrouvailles entre deux adolescentes des années Grand Bleu. L'une est délurée, alors on sait bien que c'est Laure Calamy, quand l'autre, vivant dans la banlieue ouest de Paris, est réservée et a beaucoup de mal à dépasser un divorce, pour ne pas dire qu'elle s'enfonce dans une petite dépression. Alors c'est pourquoi son fiston, eh bien, décide d'arranger un voyage avec sa vieille copine qu'elle n'a pas revue depuis des années. Arrivée en Grèce, rien ne se passe comme prévu. Les deux femmes n'ont pas la même manière d'appréhender alors les vacances, les autres, le monde, la vie, quoi. Cette différence fonde évidemment le ressort comique du film qui voit le tandem souvent eh bien, à la limite de l'explosion. Le personnage que compose Laure Calamy est exubérant, n'a jamais forcément le souci de l'autre, mais est toujours à la recherche du positif quand le personnage interprété par Olivia Cotte est bien décidé à passer des vacances dans le confort, sans imprévu, et a en horreur la posture libertine de sa copine, même si elle en pince bien pour un surfeur belge. Alors on imagine que ce sera eh bien, une pointe de dispute. Alors cliché, oui. Oui, il y en a quelques-uns. Pourtant, la comédie de Marc Fitoussi n'est pas qu'une succession de clichés. Le réalisateur prend aussi le temps de composer ses personnages et apporte un troisième élément, la personne de Christine Scott Thomas, une sorte de vieille hippie déglinguée qui va agir comme une révélatrice. Les Cyclades est une comédie douce portée par un trio de comédiennes bien assorties. Alors, il ne révolutionne pas le genre, mais se regarde avec un certain plaisir. Le réalisateur parvient à soutenir le rythme, alors davantage avec les dialogues et les situations qu'avec un montage qui reste un peu pâteau. On écoute Marc Fitoussi et Olivia Cotte qui nous ont accordé un petit moment lors du Festival du cinéma méditerranéen de Montpellier, le Cinémed, où ils présentaient le film.
T'as pas changé ? Bon, d'accord, oui, t'as les joues un peu creusées, les cernes, les pattes d'oie.
Merci, c'est gentil.
Mais tu te rappelles qu'on voulait fuguer à Amorgos ? On avait tout planifié. Le bateau à Marseille, l'escale à Athènes.
Et pourquoi on n'est pas parti ?
Je voulais comme ça un voyage un peu initiatique. Enfin, je trouvais que ces retrouvailles devaient être forcément semées d'embûches, pas simples, compliquées. Je trouve que le voyage permet ça, surtout quand on a comme ça aujourd'hui deux tempéraments aussi contraires. Surtout, je tenais à ce que ces deux-là ne se décident pas à voyager ensemble, qu'il y ait comme ça pour le personnage de Blandine une sorte de contrainte. C'est le fils qui a réussi à organiser ça.
Quirinos est la plus grande île des petites Cyclades, aujourd'hui semi-désertique. Ouais. C'est à Quirinos que furent retrouvées les célèbres statuettes du joueur de flûte et du harpiste maintenant exposées à Athènes.
Génial. Et après ?
Eh ben c'est tout.
Y a pas les petites adresses là, où manger ou prendre une glace ?
Non.
Pour moi, une bonne comédie, une comédie qui doit forcément présenter des personnages qui vont mal, enfin en tout cas forcément cabossés par la vie, en tout cas, enfin qui sont vrais, enfin et que j'aime assez comme ça moi les ruptures de ton dans les films, les mélanges de genres. Là, je trouvais qu'il était important de montrer que toute cette fantaisie était un peu feinte et que ce personnage qui semble si joyeux peut aussi cacher des choses et des choses beaucoup plus sombres. Donc effectivement, concernant Christina Thomas, c'est le cancer. Concernant Magali, c'est autre chose. Mais en tout cas, je trouvais que c'était pas parce qu'on était dans une comédie comédie qu'il fallait à tout prix mettre ça sous le tapis, ne pas en parler, ne pas le traiter, parce que l'idée était que de faire rire, et parce que dans la vraie vie, enfin, si on essaie de faire quelque chose, disons, qui soit juste et vraiment ancré dans le réel, on peut passer comme ça d'une séquence où Christine Scott Thomas parle de son cancer et tout de suite après avoir une Magali qui ne s'est rendue compte de rien, qui elle rentre d'un plan cul et qui est hilar et qui ne s'est même pas aperçu que juste avant il y a eu ce genre de confidence. Donc je trouve que la vie est faite comme ça, enfin, de moments si joyeux qui s'enchaînent avec des moments si graves et soudain derrière quelque chose qui fait que tout repart. Voilà, donc je voulais oser ça.
Ce qui va nous sauver, c'est le semi. Parce que si c'est semi désertique, ça veut dire qu'il y a un endroit là quelque part où c'est animé.
Non, laisse-moi, s'il te plaît. Et oui, pour moi, c'était évident de partir sur ce film qui est écrit avec beaucoup de délicatesse. C'est pas un buddy movie, tu vois, gras, comme certains peuvent l'être, où on met deux femmes ensemble, donc elles vont forcément être plus grossières ou, voilà, ou plus provocatrices que les hommes, non ? C'est délicat. Donc ça, déjà, pour moi, c'était évident d'y aller. Laure est une de mes meilleures amies. J'aime le cinéma de Marc, c'est en Grèce. Ça aurait été vraiment bizarre de dire non, parce que tout était évident pour moi d'y aller.
Moi, je suis très content, en tout cas, du résultat, qui donne l'impression, justement, qu'il y a beaucoup de spontanéité. Mais ça, c'est un travail qui a été fait à la fois à travers un scénario qui est très, très écrit, mais aussi beaucoup de séances de lecture derrière et de réécriture avec les comédiennes pour avoir des répliques qui sonnent plus justes dans leur bouche, qui leur semblent plus vraies, de manière à ce que rien ne puisse paraître trop écrit.
Trop écrit, voilà.
C'est toujours compliqué, les séparations. Mais après ce voyage, tu te rappelleras même plus de son nom.
On est en Grèce. Wouhou ! Davis Roussos !
J'en fais trop, c'est ça ? J'ai plein de potes qui me disent que je suis bruyante. J'ai même une pote qui m'appelle Acouphène, tu vois.
Mais là, t'as payé pourquoi ?
Pour le premier arrêt du bateau. Et puis nous, on descend plus tard.
Mais après, voilà, par exemple, même avec Olivia, on s'est pris le chou, on peut le dire, sur même comment dire les choses parfois. Est-ce que, par exemple, le personnage de Blandine peut employer le mot nana ? Je sais que ça a été plutôt que... Ou meuf. Bon, meuf, on savait que c'était pas possible de la
je
part
Je viens
de
la grande bourgeoisie de Meudon. Voilà. En aucun cas, elle dit et nana que, et meuf, voilà, en aucun cas.
Et est-ce que... Enfin, bon, voilà. Donc, tout ça a quand même été très, très, très analysé. On y a passé beaucoup de temps, vraiment. Enfin,
non, mais je pense qu'elle a été dure aussi pour Marc. C'est qu'en effet, comme ce que je te disais, c'est un film, un duo de femmes de notre génération, on a exactement le même âge que les personnages, ça touche des choses très profondes comme la nostalgie de l'adolescence, les amitiés adolescentes qui sont très importantes et fondatrices, donc forcément ça nous touche beaucoup sur la joie, sur comment surmonter des épreuves de la vie comme un divorce et un cancer, même si ok c'est pas pareil, mais en fait c'est des grandes épreuves, c'est des grands séismes, et en effet de parler de la sororité qui est un mot qu'on emploie depuis 2 minutes 2. C'est tellement ce qu'on vit, nous, entre femmes, sororité, les épreuves, la nostalgie de l'adolescence, tout ça, qu'un homme le prenne, on était parfois un peu genre « Attends, excuse-moi, pardon, oui, est-ce non, que vraiment oui. tu sais de quoi tu parles ?» Donc parfois, on a été hyper désagréable avec lui, il a été d'une grande patience.
Et attends, Blandine, donc une doudou pour la Grèce, là ?
Hein ? Ah, non, mais tu sais, aujourd'hui, tout est climatisé, donc... Et puis, elle est sans manche. Ouais.
Laure, c'était un peu la garantie, disons, d'avoir un personnage qui colle pile poil au personnage. Après, il y avait quand même l'envie de se renouveler à des endroits. Et par exemple, c'est pour ça que je tenais tant à ce qu'elle soit blonde dans le film, en me disant qu'il fallait au moins lui créer comme ça une sorte de nouvelle silhouette d'apparence qui soit un peu inédite, quoi. Parce que je voulais pas retrouver la Antoinette dans les Cévennes ou la Noémie de 10%, en plus de ça que j'avais côtoyé en réalisant quelques épisodes, quoi.
Là, c'est le début d'une nouvelle ère.
C'était Marc Fitoussi et Olivia Cotte pour le film Les Cyclades, donc un film qui a été tourné en Grèce. Alors c'est amusant parce que pendant cette rencontre, Marc Fitoussi nous a parlé de ce tournage en Grèce qui ne s'est pas forcément passé comme prévu.
Tourné en Grèce, enfin, on peut aussi parler de ça. On s'imagine qu'un film pareil, enfin, c'est un tournage totalement idyllique, une comédie en plus, il fait beau. On a eu que du vent. Quand on voulait avoir des vagues sur le spot, ben, il n'y a pas de vagues. Enfin, voilà, le film est quand même rempli de de galères qu'on a dû comme ça affronter, quoi.
Mis à part effectivement les surfeurs qui attendent une vague qui n'arrive jamais, on ne voit pas forcément tout ce qu'ils ont pu endurer lors du tournage. Les Cyclades est en salle depuis le 11 janvier. Deux couples d'amis se retrouvent une nuit d'hiver à Madrid après s'être perdus de vue. C'est Venez voir de Jonas Trueba.
Comment faites-vous pour choisir un film ?
Cinérama.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Précisez.
Comme le suggère si bien le titre, Venez voir, petit film singulier tourné en 8 jours avec des moyens dérisoires, une bulle d'air rafraîchissante qui attise la curiosité très loin d'un cinéma de studio formaté. Alors n'importe quelle comédie standard fait office de blockbuster à côté de ce quatrième film d'un jeune cinéaste espagnol hyper doué, capable de livrer un documentaire agité par la fiction de 3h40 avec Qui à part nous, et dans la foulée, comme c'est le cas ici, un long métrage de 1h04 tourné en 1h37. Alors tout commence par une rencontre entre deux couples lors d'un concert de jazz, une rencontre un peu tendue, tout en non-dit et affecte lorsque Guillermo et Susanna, récemment installés à la campagne, invitent leurs amis Daniel et Elena à les rejoindre, déplorant au passage qu'ils ne se voient pas beaucoup. Alors sous-entendu que remarque Daniel, agacé, sentant une sorte de reproche de son mode de vie citadin. Alors la banalité de la situation, très courante chez les trentenaires en passe d'avoir un enfant, rappelle furieusement l'univers d'un autre cinéaste très attaché aux détails de la vie quotidienne, Hong Sang-soo. Alors l'invitation aura lieu quelques semaines plus tard, avec en creux un petit drame à peine esquissé, une fausse couche. Les petites réticences implicites des premiers échanges vont progressivement se déliter, laissant transparaître la profonde nature de ce beau film, captation du réel et de son émerveillement sans cesse renouvelé. Car il s'agit, au sens non galvaudé du terme, d'un vrai film naturaliste traversé pourtant d'une dimension toute théorique sur le vivre ensemble, sur cette possibilité des êtres humains de refonder une forme nouvelle de communisme humaniste. Alors ce déroulé discursif s'inscrit aussi dans un contexte, celui de la pandémie, le film n'éludant pas la question car tous les comédiens, hors les lieux privés, portent des masques. Alors c'est un petit rappel comme ça qui est un peu étrange en fait. Quant au naturalisme, il n'a strictement rien à voir avec celui, par exemple, des frères Dardenne, très factice dans sa conception, car au service de scénarios très écrits. Venez voir est une invitation à voir, à prendre le temps, à se poser le temps d'un repas ou d'une balade à la campagne. Le film travaille la matière réelle au plus profond, sans aucune tricherie. Alors dans cette comédie existentielle, d'une véracité peu commune, on sent que les acteurs sont venus habillés tels quels, sans passer par la costumière, que les dialogues ont sans doute été écrits au jour le jour, laissant une bonne part d'improvisation, et que les décors n'ont pas fait l'objet de repérage. Alors Venez voir est ponctué aussi de références littéraires et philosophiques, notamment à Peter Sloterdijk, c'est un philosophe contemporain, et son ouvrage Tu dois changer ta vie, questionnant le positionnement moral, contrepoint pertinent à la légèreté d'un conte d'été, presque romérien dans les intentions. Les acteurs, mention spéciale pour les deux actrices, Itzazo Arana et Irene Ecolar, qui donnent l'impression bluffante de jouer leur propre rôle, ont cette fraîcheur et même cette maladresse des comédiens amateurs souvent plus impressionnants dans ce type de film, qui essayent de toucher du doigt le réel. Il y a, comme chez Hong Sang-soo, cette envie de ne pas faire du cinéma au sens traditionnel du terme, ce désir de conjuguer le cinéma et la vie dans une même continuité. Alors à la différence que la forme chez Jonas Trueba est plus classique, plus composée, jouant par exemple sur les effets de symétrie un peu répétitifs, installant d'ailleurs lors de la séquence de repas une succession de chants contre chants, séparant bien les deux couples dans deux espaces distincts. Alors là où Hong Sang-soo a par exemple systématiquement recours au long plan fixe, moyen le plus sûr de capter l'indicible et surtout de ne pas tricher avec le montage dans une optique dite réaliste. Alors malgré cette petite réserve, Venez voir est une réflexion ludique et pleine de charme sur le réel, entre finesse d'écriture et improvisation, qui touche aussi du doigt une empreinte émotionnelle que peut laisser une balade folk, et notamment celle que l'on entend dans le film « Let's Move to the Country » chantée par Bill Callahan, le chanteur de Smog, et qui quelque part raconte aussi un petit peu le film. « My travels are over » My travels are through. Ooh. Let's move to the country, just me and you. Let's start a family. un très très beau morceau et qui finalement ressemble assez au film, qui a beaucoup de charme.
Venez voir, de Jonas Trueba est en salle depuis le 4 janvier. Après avoir été ressuscité par une entité sinistre, Art le clown revient dans la ville de Miles County, c'est Terrifier 2.
This is Cinerama.
Je m'excuse, mais c'est aussi simple que ça.
Alors, tu sais en quoi tu vas te déguiser demain ?
Il veut se déguiser en un type qui a existé et qui a tué 9 personnes l'année dernière.
Oh non, c'est hors de question.
C'est juste un déguisement.
Terrifier 2 fait suite à, vous l'aurez compris, à Terrifier 1er du nom. Alors jamais sorti en salle chez nous, mais vers novembre en VOD suite au succès du 2 dans les salles américaines. Le premier film datant de 2017 est un tout petit film d'horreur indépendant écrit et réalisé par Damien Léon qui met en scène Art le clown, un clown muet, qui a la particularité terriblement laid avec ses dents pourries, son visage blanc, ses yeux noirs et son petit chapeau, et qui va passer les 84 minutes de métrage à la poursuite de plusieurs jeunes femmes tout au long d'une nuit riche en terreur et hémoglobine. La particularité de Terrifier naît, on l'a compris, pas dans son scénario, simple mais pas moins efficace que celui de n'importe quel bon slasher des années 80, mais dans le soin apporté à l'ambiance et au scène gore. Il a bien sûr ses limites, mais a l'immense honnêteté d'être exactement ce qu'il veut être, ne ment à aucun moment sur la marchandise, ne sacrifie jamais un vrai travail sur le suspense, ce qui décuple le plaisir des épanchements sanglants qui concluent les scènes, et surtout est très très généreux. Alors 5 ans plus tard, une suite pas beaucoup plus fortunée est produite, et miracle, le film fait un énorme tabac aux États-Unis. Pour un budget de $250,000, qui plus est en partie construit grâce à un financement participatif, le film a dépassé les 10 millions de recettes, donnant l'idée à ESC de prendre une part du gâteau en le sortant dans les salles françaises. Alors un beau chemin parcouru depuis le tout petit premier film à sketch All Hallows Eve, sorti en 2013, toujours de Damien Léon, où apparaissait pour la première fois Art le clown.
Tu crois que ce gars traîne toujours par là ?
Qu'est-ce qui t'arrive avec ce clown, sérieux ? Ça tourne à l'obsession.
On n'a jamais retrouvé son corps. Et s'il décidait de revenir ?
À la fin du premier, Art se prend une balle en pleine tête, ce qui ne l'empêche pas de se relever à la mort et d'attaquer le médecin légiste, faisant basculer le slasher classique vers le fantastique pur et dur. Alors avec Terrifier 2, pas le temps de niaiser, l'action reprend exactement là où le premier opus nous avait laissé, et c'est parti pour un second tour de piste sanguinolent où l'ambition le dispute au répugnant. Alors même si le budget reste terriblement serré pour une production voulant en mettre plein la vue à son public, on peut quand même dire que Terrifier 2 est à Terrifier 1 ce que Terminator 2 est à Terminator 1. Une suite plus grande, plus grosse, plus longue et plus tournitruante et qui ne recule devant rien. Alors délesté du simple canevas du slasher, Damien Léon peut laisser libre cours à son imagination franchement fertile, surtout lorsqu'il s'agit de faire mal à ses personnages. Terrifier 2 met à nouveau en scène une série de victimes qui vont essayer de s'en sortir face au clown impitoyable, mais suite oblige, on en apprend un peu plus sur l'envers du décor, d'où vient le mot qui compose le titre, ce qu'il représente pour le tueur et une héroïne au passé un peu plus travaillée que celle malheureuse du premier film. Alors Léon a relativisé les événements du premier pour les inclure dans une histoire bien plus grande. Art le clown est une sorte de croque-mitaine déjà craint et combattu par d'autres personnes, et la jeune héroïne incarne littéralement l'ange vengeur qui va essayer de le stopper. Alors c'est l'occasion pour Léon de la déguiser en Walkyrie pour la nuit d'Halloween, clin d'œil évident au personnage de Taharna dans le classique de l'animation pour adultes, Metal Hurlant, le film.
Je suis sûr qu'il va se passer quelque chose ce soir.
Je sais quand Jonathan dit des conneries. Il y avait quelque chose dans sa voix qui me dit qu'il y a quelque chose qui cloche.
Allez, ce soir on s'amuse. Mm-hmm. On oublie les problèmes.
Ouais. En parlant de surprise, les enfants, on a un invité très spécial avec nous aujourd'hui. Tout droit venu de Miles County. Merci d'accueillir Art le clown.
Vous avez une urgence ?
Encore une fois, le point fort du film réside dans la qualité des effets gore très nombreux, jamais répétitifs et toujours aussi impressionnants. Mais cette générosité a toutefois un prix qui se paie avec la durée du film, qui prend littéralement une heure de plus que le premier volet à raconter son histoire. Alors ambition ou non, c'était peut-être beaucoup demandé au public, même si on apprécie le soin toujours maniaque apporté au suspense, élément purement cinématographique qui n'existe quasiment plus aujourd'hui, et le fait d'amener littéralement là où les spectateurs voulaient aller. Alors une chose est sûre, que l'on trouve ou non du plaisir dans le cinéma de Damien Léon, le succès américain de Terrifier 2 est très très positif. À une époque où la dématérialisation et le concept de contenu a tué la magie des vidéoclubs et d'un quelconque travail cinématographique soigné, et où le travail d'artisan honnête semblait relégué aux oubliettes de ce qu'on appelait nos jours cinéma, les exactions soignées et sanguinolentes d'Art le clown rappellent que l'on peut toujours faire des petits films excitants en respectant ses sources d'inspiration et son public venu pour une raison bien précise. Puis en plus, il y a un petit côté origine foraine du cinéma qui est un petit peu remis au goût du jour, que je trouve plutôt plaisant. Donc voilà.
Eh bien, d'un côté, il y a Avatar, et puis de l'autre côté, donc, il y a ce petit film au petit budget. Terrifier 2 est en salle depuis le 14 janvier.
Alors ?
C'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi ?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui. J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai ?
Ça se termine toujours comme ça. Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
On se retrouve la semaine prochaine. Deux films pour toi, Guillaume.
The Lair, oui, le dernier film de Neil Marshall. Et puis une ressortie, c'est L'homme à la peau de serpent, de Ciné Lumette.
Quant à toi, Manu, un film.
Et ce sera Heroic.
À la semaine prochaine.